Ben, si tu veux, c'est un petit peu aussi le même problème. Enfin, je m'ennuie de parler de moi, ben, puisque tu vas me cerner, tu vas me piéger de toute façon.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
On m'a souvent dit, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Je crois pas à ça. Je crois qu'il faut avoir une loi, il faut être sa vérité. Il faut se battre proprement, loyalement. Mais il faut savoir que chaque jour est un combat. Le lendemain, il faut tout refaire. Il faut aller chercher. C'est merveilleux. Aller chercher les gens qui ne veulent pas, qui se refusent, par pudeur. Comme ça, lentement. On ne peut pas tricher.
Un invité. Partez à sa rencontre. Prenez le temps de partager. L'instant 2 sur Radio Grenouille.
Et bonjour à tous, bienvenue dans l'instant 2. L'année dernière, on célébrait les 101 ans de la Grande Guerre partout dans le monde, car tristement mondiale. Mais surtout et avant tout peut-être plus à l'est de l'Europe, en son cœur même, à Sarajevo, ce que l'on nommait autrefois la Yougoslavie devenue Balkan, on s'y perd un peu, un espace déchiré il y a 101 ans et au-delà, toujours en mouvement, fébrile et puissant, un peu comme la tectonique des plaques si j'ose dire. Aujourd'hui quand on se balade à Mostar, en Bosnie, à Zagreb, en Croatie, à Belgrade encore, dans la capitale serbe, on peut y percevoir au détour d'une ruelle pavée des paquets de cigarettes dessinés proprement comme ça, à la peinture rouge et blanche sur les murs de la ville, grandeur nature. Sur ces fausses boîtes en faux carton, à la place de l'abstrait fumé tue, c'est la formule d'une réalité crue qu'on y trouve, le nationalisme tue, que l'on peut lire ou ignorer. Des cigarettes, mon invité en fume, beaucoup, trop peut-être, osons l'adverbe excessivement, à l'image de son côté délicieusement punk, ses cheveux très bruns, souvent en bataille, et ses yeux toujours d'un bleu aussi profond. Son parcours est atypique, chaotique parfois, mais il y a un fil rouge, une passion inconditionnelle pour ce creuset européen si proche, loin de nous à la fois, si complexe et si simple au sens le plus touchant du terme, si riche, fascinant, un pays en particulier, occupe tout son temps, son doctorat même, comme on dit, la Bosnie-Herzégovine, un peuple qui lutte toujours au quotidien. Le nom de mon invité sonne déjà comme un voyage, vous allez le voir, Sara Sajn, oui, c'est joli, elle a des origines un peu de là-bas, elle vit entre Bruxelles, Marseille et Sarajevo. Alors que vous soyez européen, sceptique, citoyen du monde ou toute autre appartenance, embarquez avec nous vers cet ailleurs fascinant dont l'histoire, le présent et l'avenir nous dit quelque chose de nous en miroir. Collectif, identité multiple, montée des extrêmes, peur profonde peut-être d'une autre guerre civile, espoir, initiative, avenir, solution, on en parle aujourd'hui et on prend le temps de le vivre ensemble car pour comprendre, il est hors de question d'être une femme pressée. Vous êtes dans l'instant 2 et vous êtes chez vous.
Un moment s'il vous plaît.
Bonjour Sara Sajn.
Bonjour.
Bon ça va, le portrait que je viens de faire de vous vous convient?
Oui, très bien, ouais, très élogieux.
En filigrane comme ça, non, pas tant que ça. On va déconstruire l'éloge, ne vous inquiétez pas. De vous et peut-être aussi des Balkans. Alors vous êtes, allez, on va commencer par les origines, moi j'aime bien ça. Les Balkans, la Bosnie en particulier, ça a toujours été, c'est une histoire longue, une histoire un peu d'amour, on va en parler peut-être. La première fois que vous êtes rendue à Sarajevo, c'était à l'âge de 19 ans, c'était en 2007.
C'est
vous pouvez
ça.
Me raconter, voilà, comment ça s'est passé à ce moment-là et pourquoi à ce moment-là?
À cette époque, j'étais étudiante en sciences politiques à Aix-en-Provence. Et tous les étudiants de l'Institut d'études politiques ont la chance de pouvoir partir une année en stage ou pour faire des études. Donc j'ai choisi de me rendre dans les Balkans, puisque je suis allée à Sarajevo, mais aussi à Belgrade et Zagreb. C'était l'occasion pour moi d'avoir une année pour vraiment vivre cette région et la découvrir sous multiples facettes, étant donné que je travaillais dans divers organismes de presse et structures culturelles en Bosnie. Mmh.
Vous y êtes revenu après à Sarajevo, vous êtes reparti, vous avez fait un détour par Strasbourg. Voilà, l'Europe, c'est quelque chose qui vous inspire, en tout cas, et les Balkans surtout. Si j'étais un enfant comme ça, vraiment un très jeune enfant, de je sais pas, de quel âge, on s'en fiche. Est-ce que vous pourriez m'expliquer simplement la situation, le déclenchement de la guerre des Balkans en 88 jusqu'à son terme par la suite? Est-ce que, ou en tout cas, voilà, comment était Sarajevo, comment étaient les Balkans à ce moment-là? Très simplement, je sais que c'est compliqué, mais justement, je pose cette question comme ça.
J'ai malheureusement pas eu la chance de connaître la région avant, étant donné que au début de la guerre de Yougoslavie, j'avais 3 ans. Mais on a beaucoup suivi ça à la télévision, avec mes parents, et je pense que c'est notamment cette période-là qui a dû me marquer et déclencher cet intérêt que j'ai aujourd'hui toujours pour la région. La guerre dans les Balkans, enfin en ex-Yougoslavie, c'est quelque chose d'assez compliqué. Elle est faite de mesures économiques qui a peu à peu affaibli les structures de la Yougoslavie. La communauté internationale et l'Europe ont une certaine responsabilité dans cette explosion yougoslave, qui ensuite a produit une montée des nationalismes basée sur des sentiments ethniques et
religieux aussi.
Religieux en partie, disons. Le religieux est venu bien plus tard. Au début, c'était vraiment un nationalisme comme on a pu en connaître ailleurs aussi en Europe. C'est pour ça que cette région est assez intéressante, étant donné que elle nous fait revivre de manière assez fréquente dans l'histoire les pires moments de l'Europe, que l'Europe a connus, mais aussi les meilleurs. Il y a aussi de bonnes choses à apprendre dans cette région dont on pourrait s'inspirer.
Et à connaître aussi, parce que c'est vrai que quand on parle des Balkans, déjà, une des réactions des gens à qui on peut en parler, c'est « Oh là, c'est beaucoup trop compliqué, j'y comprends rien, c'est vague », et ça paraît très loin aussi, alors que c'est un espace extrêmement proche. Enfin, je veux dire, on est très, très près, nous, en France, de ces pays-là, de la Serbie, de la Bosnie, de la Croatie. Pourquoi, à votre avis, on a encore une image comme ça de complexité et presque d'obscurité, alors que ce sont des pays qu'on connaît aussi extrêmement lumineux dans leur culture, leur tradition? Pourquoi ?
Je pense que la région des Balkans souffre d'une perception ambivalente en Europe, en tout cas en Europe occidentale. Il y a une certaine barbarie associée au peuple d'ex-Yougoslavie notamment, et qui a été construite finalement au fil de l'histoire en Europe. C'est la poudrière des Balkans, comme on a souvent dit. C'est aussi une région qui produit plus d'histoire qu'elle ne peut en assumer. Mais c'est une vision tout à fait construite que j'aimerais aussi pouvoir déconstruire et décomplexifier. Mais de l'autre côté, il y a aussi un certain exotisme, comme cet exotisme oriental qu'on a ici. C'est une perception assez ambivalente. D'un côté, la barbarie, le nationalisme, la guerre, comme si la violence était finalement intrinsèque à la culture balkanique, ce qui ne l'est fondamentalement pas, selon moi. Et d'un côté, cet exotisme un peu promu notamment par quelqu'un qu'on aime beaucoup en France notamment, ce cher Emir Kusturica, dont on ne parle finalement jamais sous l'angle politique, et ce qui est assez désastreux.
Parlons-en alors, pas seulement sous l'angle cinématographique, qui par ailleurs on peut en discuter, de grands films, Le Temps des Gitans, Chat Noir, Chat Blanc. Vous pensez qu'il y a... c'est quoi ? C'est qui Kusturica, vraiment ?
Kusturica, effectivement, c'est un artiste assez connu en France, mais dans le monde entier maintenant, qui a fait des films qui peuvent se respecter, mais qui a pris des positions politiques très extrêmes, notamment qui allait jusqu'à l'appel au pogrom contre les Kosovars, qui a ses origines en Bosnie-Herzégovine. Il a notamment changé de nom. Donc il ne s'appelle plus Emir, mais Nemanja, un nom très marqué serbe. Il fait aussi un mélange d'entreprises culturelles sous fonds très nationalistes qui ne font qu'envenimer la région. Donc il est un acteur très important finalement du nationalisme serbe qui ravage la région depuis un moment.
L'instant 2. Prenez le temps de partager
sur Radio Grenouille.
Les Balkans aussi, Sarah Sage, on va rentrer un peu plus dans le vif de votre sujet de doctorat, on dit plus thèse maintenant, donc de doctorat, j'essaie d'employer les bons mots. Globalement, c'est sur ces relations dont vous parliez entre l'Union européenne et la Bosnie en particulier, puisque vous vous intéressez à la Bosnie-Herzégovine. Vous avez vécu à Sarajevo, donc vous connaissez le terrain, si j'ose dire. Vous en avez fait aussi des terrains, vous êtes reparti faire des recherches aussi pour revivre différemment dans cette ville. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus de ce sujet de doctorat? Est-ce que vous voulez montrer finalement, quel est votre objectif là-dedans? Peut-être simplifier, j'aime pas trop le terme, mais simplifier les représentations des Balkans dans nos imaginaires?
Ce qui m'intéresse en Bosnie-Herzégovine, c'est justement la structure sociale, mais aussi politique. C'est un pays qui a aujourd'hui une constitution qui reste toujours un annexe de l'accord de paix signé en 1995. Socialement, c'est aussi une petite Yougoslavie, étant donné que c'est une des républiques ex-yougoslaves les plus mixtes ou diverses, comme on peut dire, ethniquement parlant, religieusement aussi. Mon sujet de thèse, il a plus ou moins vocation à s'intéresser à la Bosnie-Herzégovine par le prisme des politiques européennes qui sont mises en place dans ce pays pour pouvoir aussi parler d'Europe à travers la Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire parler de multiculturalisme, par exemple, ce qui est un sujet assez important en Europe, puisque on est confronté à de nombreux problèmes de nationalisme que la région a connu et dont on pourrait beaucoup apprendre, ce qui n'est pas du tout fait jusqu'à présent.
Le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, c'est un peu compliqué quand même, hein. C'est quelque chose d'un peu obscur, on ne sait plus vraiment qui décide. Est-ce que c'est la Bosnie ou c'est l'Europe? Vous pouvez nous en parler un peu aussi de cette constitution du gouvernement aujourd'hui de la Bosnie?
Disons que la Bosnie-Herzégovine peut être considérée comme un protectorat européen ou international. On a un haut représentant de la communauté internationale qui a des pouvoirs qui ressemblent à un gouverneur du temps colonial.
Oui.
Donc je disais que la constitution n'est toujours pas une constitution qui a été basée sur une élection, une assemblée constituante ou sur la volonté du peuple. Elle a été imposée par les accords de paix qui ont été signés quand même par notamment Milosevic et Tudjman, qui étaient dans les années 90 les présidents de la Serbie et de la Croatie. Aujourd'hui, la structure politique de la Bosnie-Herzégovine, c'est effectivement quelque chose de très compliqué, un des systèmes les plus complexes du monde, on a pu dire récemment, en octobre dernier, lors des élections. On a une division en deux entités, pour faire rapidement, la République serbe de Bosnie, ou Republika Srpska, et la Fédération de Bosnie-Herzégovine, aussi appelée Fédération croato-musulmane. On a une présidence qui est tripartite, avec un représentant serbe, un représentant croate et un représentant bosniaque. On a 186 ministres dans le pays pour gouverner une population d'un peu moins de 4 millions d'habitants.
Tout ça sous protection, protectorat, on ne sait plus comment dire, de l'Union européenne.
Oui, officiellement, évidemment, le mot de protectorat n'existe pas dans les textes.
D'accord.
Mais oui, on peut considérer la Bosnie-Herzégovine comme un protectorat, étant donné le pouvoir que la communauté internationale et aussi l'Union européenne a dans le pays.
On reviendra tout à l'heure dans les diverses manifestations, les plénums, comme on les a appelés, de ce peuple d'aujourd'hui, de Bosnie, souvent très jeune, qui aussi se révolte contre ce système, entre autres. Mais avant tout, Sarah Stange, j'aimerais vous emmener à Mostar, comme ça. Allez, pourquoi pas, en Bosnie-Herzégovine, dans une ancienne édition de l'Instant 2, l'année dernière. On a reçu Camille, Rosa et Emma Lebeau, qui travaillent en ce moment sur un web-documentaire qui s'appelle Les Rêves d'en face, et qui sont allés à Mostar, entre autres, dans cette ville qui est encore divisée, comme vous le dites, pour essayer de comprendre comment se reconstruisent encore les peuples aujourd'hui dans les Balkans. On y va, je vous y emmène, écoutez, puis on va réagir ensemble ensuite, direction Mostar.
Milane, dragane, o srce moje ludo radovanje, tamburica isprošati. Non, moi, mais ce n'est maintenant. Dina, 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 za Milana.
C'est une chanson que vous connaissez peut-être. On est dans les rues de Mostar et une chanson traditionnelle qui a été prise à la volée donc par Emma Lobo et Camille Rosa. Merci de nous avoir donné ce son-là. Ça vous évoque quoi, ça? C'est ce son-là, au lieu de parler de politique, de complexité gouvernementale en Bosnie. Ça vous évoque quoi, ça? Vous, qui aimez ce pays et Sarajevo et Mostar.
Cette chanson, elle m'évoque les traditions et en même temps très ancestrales.
Et des images
de chants, la musique, c'est très important dans la région. On y pleure, on y danse
On y rit aussi.
On y rit aussi, oui, effectivement. Mostar, c'est une ville encore très meurtrie contrairement à Sarajevo qui peine un peu à se reconstruire, mais la culture c'est quelque chose de très important et qui joue aussi un rôle fondamental dans la reconstruction de la ville, dans la réconciliation entre les Bosniaques et les Croates, puisqu'il n'y a plus de Serbes.
Bosniaques, c'est les musulmans de
Bosnie-Herzégovine. À Mostar, il se passe de très belles choses. On a vraiment des foyers de résistance importants, comme le centre Abrashevich, ou la Mostar Rock School, qui allie en fait, culture, qualité, mais aussi réconciliation et, disons, on pourrait même dire projet politique.
Donc ça vous évoque quelque chose de positif et ça c'est plutôt bien justement, on y retourne à Mostar, j'aime bien un voyage comme ça dans ce studio. Écoutez l'explication d'une habitante de Mostar qui nous explique cette chanson qu'on vient d'entendre.
Traduire, mais voilà, Mostar c'est un endroit très bizarre.
Doviđenja,
prijatno.
Ali mjesto u tebe da spavaju.
Ima. Tout est presque le même comme l'année dernière. C'est toujours le même, on s'ennuie. Après, ça parle d'une fille qui est Biba, d'une famille Čelebić. C'est elle qui avait mal, on ne sait pas, mal au cœur ou mal... Voilà. Mais c'est un mal d'amour. Et elle dit qu'elle souffre en soi-même, mais elle parle à personne de son souffrance.
Souffrance, amour aussi, on entend de belles choses. Bon, il y a de la souffrance, mais quand on aime, on souffre, c'est un peu comme ça. Et je crois, hein, Sarah Sage, c'est la langue qu'on entend là, c'est laquelle vous comprenez des choses, vous pouvez nous aider nous donner un... Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, ces gens-là, dans les rues de Mostar? Ils parlent de quoi, vous, la souffrance dans la musique des Balkans, ça vous inspire aussi? Vous pensez que c'est important, que ça peut donner une autre image de ce qui s'est passé, qui est réel, hein, la guerre, la souffrance, mais aussi beaucoup d'amour et beaucoup de lumière dans ces pays-là.
Oui, la musique, c'est très important.
Les gens, parce qu'on entend des gens, là.
Oui, les gens parlent beaucoup dans la rue, s'interpellent. Il y a un côté très latin aussi en Bosnie, en Herzégovine notamment. La plupart des chansons balkaniques, parlent d'amour, de souffrance. Et je pense que ça fait partie des choses qui réunissent tous les individus, sans parler d'appartenance ethnique.
Dit souvent qu'il y avait un tiers de mariages mixtes avant la guerre des Balkans. Mixte, ça veut dire mixte entre les communautés, les religions aussi. Hein, on a orthodoxe, catholique, musulman, tout ça s'imbrique entre serbes, bosniaques, bosniens et croates. Donc voilà. Mm-hmm. Est-ce que cette image d'un tiers de mariage mixte, c'est une réalité avant la guerre? C'était une sorte de ce paradis où tout le monde s'entend bien et où on peut vivre ensemble? C'était une réalité ou c'était un peu mythique aussi? Ça a été... Vous en pensez quoi, Sarah Sage?
Bon, je n'ai pas connu cette période-là.
Non, justement, dans vos recherches.
Mais oui, effectivement, en Bosnie-Herzégovine, il y avait un nombre de mariages voilà, mixtes, comme on dit, assez important, ce qui en fait voilà, la petite Yougoslavie, même aujourd'hui, après les campagnes de nettoyage ethnique qui ont été voilà, perpétrées pendant la guerre des années 90. Voilà, aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup moins de mariages mixtes. La population s'est homogénéisée le long des frontières administratives qui séparent les trois communautés, disons. Mmh. Vous parliez de bosniens.
Bosnien-bosniaque.
Il faut dire que on entend en français bosnien, un citoyen de Bosnie-Herzégovine. Mmh. Le problème aujourd'hui, c'est que dans la Constitution, dans la réalité, être citoyen de Bosnie-Herzégovine, ça n'existe pas. On est attaché à son appartenance ethnique, donc bosniaque musulman, croate catholique, serbe orthodoxe, avec aussi une différence d'alphabet entre les communautés. Et voilà, enfin, même en termes de langue, tout le monde sait, tout le monde qui connaît la région sait bien que tout le monde parle la même langue.
On est obligé de choisir son appartenance alors ? On ne peut plus dire je suis bosnien, on est obligé.
Mm-hmm. Par exemple, quand on vote pour les représentants à la présidence ou au Parlement national, sachant que le mot national n'existe pas vraiment en Bosnie-Herzégovine, on va voter pour le représentant serbe si on habite en République serbe de Bosnie, on va voter pour le représentant croate ou bosniaque si on habite de l'autre côté de cette frontière qui n'existe pas mais est bien réelle et qui divise la Bosnie aujourd'hui encore.
Qui divise la Bosnie aujourd'hui encore, on n'est pas forcément de gagnants, de perdants, on a quand même des gens qui luttent et on va en discuter juste après ça.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
Ces beaux jeux inventés pour passer devant les premiers, pour que chacun soit écrasé s'il refuse encore de plier. Les dégâts, les excès, ils vont vous les faire payer. Les cendres qui resteront, c'est pas eux qui les ramasseront, mais les esclaves et les cons qui n'auront pas su dire non. Nous on veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants. Pimpronel et Nicolas, vous nous endormez comme ça. Le marchand de sable est passé, nous on garde un œil éveillé. Oh la peur, oh le vide, oh la victoire des avides. Faut pas bouger une oreille, toutes sortes de chiens nous surveillent. Pas un geste, une esquisse, sinon on tourne la vis. Nous on n'a rien à gagner, mais on ne peut plus perdre, puisque c'est déjà fait. Toi qui viens de loin d'ici avec ta peau et tes os, on t'a parlé de paradis, on t'a menti, tout est faux. Oh mon ami, oh mon frère, tes sonnets perdus pour la guerre, tu vas voir tout l'amour qui traîne au fond des discours. Dis t'en veux des papiers, dis tu l'as vu mon palais, où t'auras rien. C'est ainsi, c'est pas fait pour les perdants, le paradis. Il y a la chair à canon, il y a la chair à spéculation, il y a la chair à publicité, enfin il y a tout ce que vous aimez. Vous et moi on le sait, le spectacle est terminé. Pourtant c'était presque idéal, c'était loin du féodal. Oh maintenant c'est foutu, ça fait joli dans ton fort intérieur. C'est gênant de rejoindre comme ça la cohorte des perdants. Faut pas
se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action. Et pour nos âmes, c'est égal. Dieu n'est pas dans la bataille. Oh, messieurs les décideurs, de toutes parts, de tous côtés, sachez que profond dans nos cœurs, on n'arrête pas le progrès. Sous les risques, sous la peau, sous les ongles et dans les tours, on pourra toujours refuser de devenir les premiers ou les derniers.
Bertrand Cantat, gagnant-perdant, qui remonte sur scène, qui est remonté sur scène avec Détroit. Vous êtes toujours dans l'instant 2 avec Sarah Sajne.
L'instant 2
sur Radio Grenouille. Sarah Sajne, j'ai choisi cette musique, gagnant-perdant, pour deux raisons. La première, c'est que Noir Désir, c'est un groupe que vous aimez, qui vous suit depuis longtemps.
Beaucoup.
Beaucoup. Et puis, gagnant-perdant, pourquoi ? Parce que déjà, c'est une belle chanson. Voilà, déjà. Et aussi, pour revenir à ce qui occupe vos journées, hein, votre thèse, vos recherches sur la Bosnie, sur les relations de la Bosnie avec l'Union européenne. Est-ce qu'après la guerre des Balkans, il y a eu des gagnants et des perdants ?
Évidemment, ça dépend toujours du point de vue que l'on adopte.
Ah. Vous répondez comme une politique, attention.
Oui, je sais bien. déformation, peut-être.
c'est ça.
Je pense que voilà, parmi la population, on peut dire qu'il n'y a pas eu vraiment de gagnants. Après, il y a eu beaucoup de gens qui ont profité de la guerre et qui, étant donné la sortie de la guerre comme on l'a connue, c'est-à-dire avec Milosevic qui est resté au pouvoir en Serbie, plus ou moins soutenu quand même par les dirigeants européens et notamment François Mitterrand.
Pour ne pas le citer.
Pour ne pas le citer. Oui. Voilà, il y a eu des gagnants dans le sens où il y a eu ce qu'on appelle les profiteurs de guerre. Et finalement, en Bosnie-Herzégovine, on a abouti à une division du pays telle qu'elle avait été souhaitée par notamment Radovan Karadžić, Mladić, Milosevic.
Milosevic, justement, j'en profite, j'allais dire, c'est pas vraiment le terme, mais quoique. En octobre dernier, il avait eu des sanctions qui avaient été prises contre lui pour sa responsabilité dans la guerre des Balkans. En octobre, elles ont été plus ou moins allégées, voire retirées. Vous pouvez nous parler de ce qui s'est passé ?
Oui, c'est des sanctions qui avaient été mises en place contre Milosevic, mais aussi son entourage. Voilà, mais la Serbie et comme les autres pays de la région sont dans le processus d'adhésion à l'Union européenne. Donc il y a aussi des marchandages qui se font et l'Union européenne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'est pas vraiment un modèle d'intégrité politique. On a aussi un gros problème de mémoire. Je pense pas, et c'est aussi l'objet de ma thèse, que l'Union européenne soit capable aujourd'hui de promouvoir un modèle politique qui soit, disons, basé sur les valeurs dites européennes. Voilà, de solidarité, de vivre ensemble, de diversité notamment, parce que voilà, c'est dans les Balkans, on peut aussi voilà, le voir, on enlève les sanctions qui étaient mises en place sur le camp Milosevic, alors que voilà, les problèmes de mémoire vis-à-vis de la guerre ne sont pas du tout réglés. Je trouve ça assez grave, ce qui s'est passé.
Quel modèle, alors, est possible pour faire ce travail de mémoire et pour, vous le dites, porter un nouveau modèle aider ces pays, et notamment la Bosnie, qui est clairement aujourd'hui dans une situation de crise à tout point de vue, un chômage des jeunes extrêmement important, une situation politique, on l'a dit, encore complexe et pas tout à fait limpide. Quel modèle ? Alors, ce qui s'est passé l'année dernière, ce qu'on a appelé les plénums, donc ces moments de rassemblement de jeunes surtout, qui avaient envie de porter une autre voix dans la rue, à Sarajevo et ailleurs, c'est un modèle qui peut fonctionner, la participation citoyenne de ce peuple-là ?
Ce qui s'est passé en février 2014 et qui a duré quelques mois, donc on a eu des émeutes suite au fait que les jeunes, notamment sans emploi et pas forcément des étudiants, comme on pourrait l'imaginer vu d'ici, ont rejoint des ouvriers qui étaient en grève depuis bien plus longtemps que ça, depuis 2012 à peu près, et qui se révoltaient contre les privatisations qui ont fait suite à la fin de la guerre, dans ce beau chemin qui est l'adhésion à l'Union européenne. On a aussi toute une série de mesures économiques qui ont ravagé l'économie du pays et de la région en général. Mais qui ont aussi ravagé d'autres pays, pas seulement l'ex-Yougoslavie.
Ces émeutes, c'était seulement en Bosnie, seulement à Sarajevo ou ailleurs ces rassemblements?
Disons que les manifestations, les grèves des ouvriers sont parties de Tuzla, qui est une ville au nord de Sarajevo, un ancien bastion industriel yougoslave, qui est aussi un peu un fief de l'antifascisme, l'antinationalisme. Un symbole du multiethnisme bosnien, de ceux qui en restent en tout cas, avec une forte culture ouvrière et syndicale. Donc tout est parti de là, et suite à aussi des violences policières, les manifestations se sont propagées dans un grand nombre de villes du pays.
Et quel message portaient-ils ces gens-là en Bosnie?
Ces gens-là,
comme dirait l'autre.
Ouais. Ces gens-là, ils se battent pour leur gagne-pain. C'est ça part de considérations très simples et pour le coup que tout le monde peut comprendre et peut partager dans la région, mais aussi chez nous.
Et que tout le monde doit avoir, c'est ça ?
Oui, disons que on avait un système yougoslave, un système aussi autogestionnaire. Je pense que clairement ça posait quand même problème d'avoir pendant la guerre froide un pays au milieu de l'Europe avec un système qui finalement était en totale rupture avec et le côté communiste stalinien et l'Europe occidentale capitaliste. Donc je parlais des causes de la guerre, je pense que ça a arrangé aussi tout le monde à un moment donné que ce système disparaisse. Mais il y a des restes, il y a clairement une culture ouvrière dans certaines vies en tout cas, qui est toujours là et qui est assez intéressante par rapport aux luttes et aux mouvements sociaux qui peuvent exister en fait dans toute l'Europe, mais aussi dans le monde entier, vis-à-vis de ce système capitaliste qui clairement pose problème à toutes les échelons.
Et les messages, c'est juste de ces manifestations, c'est pas juste ça, c'est pas juste les besoins qui sont primaires, au meilleur sens du terme, il n'y a pas que ça qu'on porte, il y a aussi un nouveau modèle, une voix de faire entendre la Bosnie à un autre niveau, un niveau européen, mondial, de dire on est là, on existe, il y a ça aussi. Non.
Je pense que, en termes, disons que moi je vais l'analyser de cette manière-là. Ce qui m'importe, c'est aussi qu'on regarde ce qui se passe là-bas et justement pour ne pas rester dans de vieux clichés, de vieilles images un peu erronées de cette région-là et de ce pays en particulier. Mais les protestations, les manifestations, elles exprimaient un ras-le-bol, une misère sociale très très importante, et elle dénonçait les privatisations, mais aussi une élite politique qui clairement nourrit et les clivages ethniques, puisque toute la rhétorique politique en Bosnie est totalement monopolisée par les problèmes soi-disant de conflits interethniques. Ce que les manifestations montraient, c'est que finalement, il n'y a pas vraiment que ça qui importe pour les citoyens.
Et qu'on peut vivre ensemble aujourd'hui en Bosnie.
On peut vivre ensemble. Les mobilisations qui ont eu lieu et voilà et qui continuent sous diverses formes, disons, elles montrent qu'il y a un réel potentiel politique en Bosnie de la part des citoyens, une réelle culture. Voilà, on a retrouvé dans les plénums. Voilà, sorte d'assemblée, disons, populaire, autogérée, des traces de cette culture yougoslave, voilà, enrichie par voilà, une culture européenne, disons, de certains jeunes en Bosnie. Donc il y a un mélange, il y avait un mélange générationnel très intéressant, avec beaucoup de retraités qui ont participé à ces assemblées.
Vous y étiez pendant les manifestations?
J'ai malheureusement pas pu
ou après,
me rendre à ce moment-là en Bosnie. Mais voilà, j'y suis allé ensuite, j'ai rencontré un certain nombre de participants, de leaders, même si le mouvement refusait justement d'avoir un leader. Quelque chose de très compliqué à comprendre chez nous. D'ailleurs, tous les représentants qui sont un tout petit peu bousculés à ce moment-là, notamment dans la capitale Sarajevo, chercher un leader, chercher une transformation en parti politique. Et ce n'était pas du tout l'objet de ces assemblées. Elles avaient voilà, vocation à canaliser la colère sociale, qui est largement légitime, mais aussi voilà, à essayer de réfléchir à un modèle alternatif. Et je pense qu'ils sont en train de réfléchir à ça de manière assez constructive. Et c'est ça qui est intéressant.
Modèle collectif, dans le collectif, il y a toujours de l'individuel, dans l'individuel du collectif. Bref, il y a une petite interview dans cette émission qui va peut-être vous intéresser. En tout cas, c'est parti.
Si vous étiez
Sarah Sajn, à une heure de la journée.
Je serais 2h du matin.
Pourquoi?
Je suis un oiseau de nuit.
Ah oui, c'est bien quand on fait une thèse, quand on fait un doctorat et des recherches, ça sert.
Ça peut servir, effectivement.
Donc vous serez 2h voilà. du matin. Bien, si vous étiez une frontière. Vous qui travaillez sur les Balkans et sur la Bosnie-Herzégovine.
Je serais la frontière, la ligne de démarcation inter-entité qui partage les deux entités de Bosnie-Herzégovine.
C'est vraiment?
Oui.
Ouais. Vous pensez que cette frontière, elle est valable?
Elle est
légitime?
Elle est absurde.
Oui.
Elle est ioneskienne, kafkaïenne, ouais. comme à peu près tout ce qui se passe dans ce pays-là. Voilà, globalement, les frontières, c'est pas vraiment mon truc. Donc,
c'est pour ça que je vous posais la question. Si vous étiez un plat de cuisine, on peut parler aussi de culture par la gastronomie, un plat européen, vous qui avez même travaillé à la Commission européenne.
Eh bien, écoutez, je pense que je serais des pâtes, parce que j'ai aussi
des origines italiennes,
étant donné que je viens de Nice,
ouais.
Et qu'une partie de ma famille est aussi italienne. Voilà, les pâtes, ça réunit tout le monde, et c'est quelque chose d'assez simple.
C'est un plat de vivre ensemble, on peut le manger à 2h du matin, à votre heure de la nuit, en faisant une thèse.
Ah oui, surtout.
Et en mettant beaucoup de bons produits méditerranéens, entre autres, d'accord, ou pas que, d'ailleurs.
Pas que.
Si vous étiez un mot, Sarah Sajn.
Amour.
Alors. Si vous étiez une lutte politique, sociale, une lutte, ou pas d'ailleurs, hein. L'engagement peut s'entendre de plusieurs manières.
Je serais une lutte pour la liberté, quelle qu'elle soit.
Pour la liberté, quelle qu'elle soit. Individuelle, collective, la liberté de libre circulation des corps et des désirs. Comme,
par exemple, oui.
Par exemple. Et d'ailleurs, si on vous dit demain, vous êtes responsable, je vous le dis, on imagine, on peut se permettre ici, vous êtes responsable de redessiner les frontières des Balkans, allez, on va dire de la Bosnie actuelle. Qu'est-ce que vous feriez?
Je pense que c'est une attitude très européenne,
ouais,
de dessiner les frontières, et pas forcément que dans les Balkans. L'Afrique, on sait quelque chose. Je pense que voilà, les frontières devraient être beaucoup plus ouvertes. Aujourd'hui, on a ouvert nos frontières dans l'Union européenne, entre nous, et on construit voilà, une muraille autour de nous. Je pense que c'est quelque chose, c'est un des problèmes de société auxquels on doit s'attaquer de manière très très ferme aujourd'hui pour ne pas finir dans l'entre-soi européen et perdre clairement toutes les valeurs voilà, d'ouverture, de mixité, de solidarité qui devraient être les nôtres.
Dans vos recherches, vous utilisez aussi la photographie. Hein. Quand on fait un terrain, quand on fait un doctorat, et ben on a de la matière, du son, de l'image, vous faites de la photo. Si vous étiez une photo marquante de l'histoire, par exemple, vous en avez une en tête comme ça ?
Je pourrais être un des portraits de Tito photographié pendant la guerre.
C'est pas vrai. Vous aussi, vous avez ce qu'on appelle la titostalgie, la nostalgie de Tito.
Non, pas du tout.
Non.
Mais disons que c'est une époque que j'ai pas connue et en travaillant voilà dans une région qui est faite de tellement d'influences, de modèles différents qui ont été plus ou moins imposés ou choisis. Ouais, je serais cette photo, voilà, Milomir Kovacevic, on a pris quelques-unes et je les aime beaucoup.
D'accord, bah écoutez, on parlait de Kusturica tout à l'heure, de Bregovic aussi, on peut en parler, qui participe à ces représentations, à cet imaginaire qu'on a des Balkans, ici en France notamment. On se quitte pour quelques minutes pour respirer un peu et écouter et sentir cette musique des Balkans qui, quoi qu'on en dise, est magnifique.
So
toujours dans les Balkans, si j'ose dire, dans l'instant 2 avec Sarah Sajn. On en parle, c'était Goran Bregovic dans Le Temps des Gitans.
Décalé.
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 Chronique.
Chronique.
Décalé.
Décalé.
Chronique décalée.
Chronique décalée.
Bonsoir, bonjour, bienvenue, bon matin, quand on veut. Lauriane Toulemont.
Bonne nuit.
Bonne nuit, Lauriane. Ça va bien ?
Ça va, ça va.
Bon, les Balkans ou les Balkanies, Lauriane, vous nous proposez un petit tour décalé des histoires qui font tâche, comme on dit dans les pays des droits de l'homme.
Roland Nazillon à la droite, de la droite, de la droite, discours aux accents soviétiques à la gauche, de la gauche, de la gauche, au milieu... À gauche, c'est à droite, c'est à gauche. J'en perds mes repères, j'en deviens blonde comme Marine, à me dire l'autre droite pour la gauche, l'autre gauche pour la droite. Le jeu qui parle, c'est la France et sa politique balkanique.
À gauche, entre frondeur et gouvernement, le PS se balkanise.
Rappelez-vous, dans les années 30, la SFIO et Léon Blum, c'était la Yougoslavie de la gauche. Mais deux républiques plus tard, le Parti Socialiste de Mitterrand défend l'austérité et la sécurité. Un peu de cahut avec Cahuzac, mais on se resserre les rangs bien à droite. On est tellement serré là-dedans que certains sont éjectés. Attention, mettez vos ceintures de sécurité gouvernementale. Attention aussi à la fille de Jacques Delors, qui va faire trembler les éléphants du PS. Un des éléphants s'est d'ailleurs fait griller à New York il y a quelques années, entre femmes de ménage et hôtel lillois, un DSK, ça trompe énormément. Mais aujourd'hui, pour éviter les turbulences, on passe sous silence les tabous de l'ancien roi du FMI. Au siège du Fonds monétaire, on fait encore cocorico grâce à Christine Lagarde. La grande dame argentée n'a pas peur des vieilles casseroles libyennes, c'est une bonne capitaliste et une très bonne amie. Elle n'hésite pas à appeler sa copine Isabelle pour la consoler. Au téléphone, elle entend qu'Isabelle souffre. Son couple est en danger. Patrick et Isabelle ne peuvent plus s'adonner à leur grande passion, la corruption.
À droite, en 1996, Patrick et Isabelle Balkany connaissent pour la première fois les 12 échos de la justice.
Le golden couple de Corbeil-Essonne a pourtant besoin de domestiques et de chauffeurs, quitte à éclabousser le bling-bling président Sarkozy, tant pis. D'ailleurs, le petit Nicolas en a assez d'être sur écoute. Ses big magouilles se compliquent, il aurait bien besoin d'une nouvelle coupe, pourquoi pas chez L'Oréal. Et pourquoi pas un tour au soleil, un petit Tripoli en mode king size. Ah non, ce cher Kadhafi n'est plus là pour redorer les comptes de campagne. Dommage, on va être sec en 2017. Face à la famine pécuniaire, on va manger à tous les râteliers. Pour consommer pas cher, il existe une gastronomie bleu-blanc-rouge. La maison Le Pen vous ouvre ses portes tous les jours de 9h à 19h.
Le Pen, la tête en breton et en Balkanie, ça donne quoi ?
De Jean-Marie à Marine, on ne craint pas la justice. Les têtes du front pensent plus grand, sans perdre une minute. Elles visent la présidence avec un beau sourire carré. On se blonde platinise et la nouvelle dauphine se nomme Maréchal. Après tout, si le vieux père JM défend Pétain, pourquoi ne pas aussi redorer le blason de Milosevic, par exemple ? Ah non, pas besoin. L'Union européenne s'en est chargée en octobre dernier. La mémoire de Milo Milo et de sa famille est sauvée. Les sanctions contre eux ont été levées. Et ce, au moment même où l'effroyable Ratko Mladic est entendu au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
Ratko Mladic, commandant en chef serbe, accusé de génocide pour le massacre de Srebrenica.
Décalé.
Décalé.
Chronique décalée.
Chronique décalée.
Et oui, c'est décalé, hein, on vous le dit à chaque fois, c'est le principe justement de l'émission. Décalé, Balkanie, balkanisation, on a pris ce duo-là. Merci, Lauriane Toulemont. Sarah Sajn, l'invitée de l'Instant 2. Vous travaillez sur les Balkans, je le répète, sur la Bosnie, ses relations avec l'Union européenne. Alors, une réaction à chaud sur cette chronique décalée, presque scandée comme du slam. Hein. On est presque là-dedans.
Ah, ça touche beaucoup de choses qui m'intéressent. La balkanisation, un mot qu'on adore en France. Qui voilà, entretient cette relation étrange que nous avons avec les Balkans, ce synonyme de fragmentation, de violence, de poudrière. D'ailleurs, les Balkanis l'utilisent à souhait, ce qui ne m'étonne pas du tout. Voilà, la balkanisation, on dit que ça touche aussi nos pays occidentaux, qui seraient touchés par ce mal balkanique de fragmentation, d'éclatement de la société. On parlait des plénoums, voilà. Enfin, j'ai plusieurs choses qui me viennent à l'esprit quand j'entends la chronique
de Lauriane.
Voilà, la corruption, une élite qui monopolise le pouvoir et en même temps se sert à souhait dans les caisses qui pourraient servir à bien d'autres choses. C'est aussi quelque chose qui nous lie aux protestations qui se sont passées en Bosnie-Herzégovine, voilà, notamment en février 2014.
Mais parce qu'il y en a eu avant, hein. Il ne faut pas non plus voir évidemment les plénums comme un moment vraiment où le peuple se réveille. Le peuple de Bosnie est dans une lutte quotidienne, c'est ce que vous dites aussi dans un article qu'on vous a interviewé sur votre thèse au mois d'octobre de l'année dernière. Vous dites que c'est une lutte quotidienne pour la justice sociale, ce n'est pas nouveau en fait, ces manifestations en Bosnie, ces élans comme ça de cris de rage aussi, comme la chronique qu'on vient d'entendre sur les magouilles, l'argent qui n'est pas là où il devrait être, enfin c'est pas nouveau.
Oui, effectivement, il y a eu des antécédents, disons, de lutte, de mouvements sociaux, de résistance, de tentatives d'organisation, de dénonciation. Voilà, de la corruption, disons, largement dans le pays. Mais c'est vrai que voilà, les manifestations de février 2014 étaient un mouvement qui n'avait pas d'équivalent dans le passé, en tout cas depuis la guerre, sachant que je pense qu'il y a un traumatisme, notamment à Sarajevo, vis-à-vis des mouvements de foule et des manifestations, puisque le siège de Sarajevo en 1992, le 6 avril exactement, les premiers morts ont eu lieu lors d'une manifestation pour la paix.
Ironique. Est-ce que c'est une manière aussi d'alimenter les images, les représentations, de les rendre plus simples, plus réelles, plus ce qu'elles sont, en faisant des terrains en Bosnie, notamment à Sarajevo, de montrer une autre image de la Bosnie et d'éviter que ce qui s'est passé pendant la guerre, donc une guerre civile, ça vous va si je dis ce terme-là ?
Plus ou moins.
Ok, on peut en parler, recommence. Vous avez peur de ça, vous ? Est-ce que c'est peut-être pour ça aussi que vous faites des recherches, que vous faites une thèse ? Ça vous angoisse ?
J'ai peur que ça recommence, mais j'ai peur que ça recommence pas forcément uniquement en Bosnie-Herzégovine. Voilà, on parlait de cette balkanisation. Voilà, elle fait aussi référence à des fragmentations sur des bases ethniques, raciales, religieuses, sexuelles, voilà, que nous connaissons en France, en Europe, comme là-bas, comme on dit. Les Balkans n'ont pas le monopole de la guerre, n'ont pas le monopole du nationalisme, du racisme ou du fascisme. Et voilà, et l'histoire de l'Europe le montre bien.
Voilà, voilà, que ça recommence. C'est la chanson que vous avez choisie. Je vous le demande à chaque invité dans l'instant 2 de Rachid Taha. On réagit ensuite.
Avance.
Voilà, voilà que ça recommence. Rachid Taha, toujours dans l'instant 2 avec Sarah Sajn, qui travaille sur les Balkans, la Bosnie et ses relations avec l'Union européenne, notre Union européenne, comme on dit. Pourquoi avoir choisi cette chanson, Sarah Sajn ?
Parce que c'est une chanson qui a déjà quelques années et qui garde malheureusement toute son actualité. La montée des extrêmes. La dénonciation des étrangers comme responsables de tous nos malheurs, qu'ils soient politiques, économiques. C'est malheureusement quelque chose qui m'inquiète beaucoup.
Pas seulement dans les Balkans.
Effectivement, pas seulement dans les Balkans. Et c'est tout là, je pense, l'intérêt de travailler sur cette région, de se rendre compte que...
De se rendre compte et de se rencontrer rendre... aussi, finalement, il y a un petit mélange qui a tout son sens.
De se rendre compte que ça peut aussi arriver chez nous. Et parler à des Yougoslaves qui habitent en France, en Belgique, en Allemagne, ils seront très très effrayés d'entendre certains propos de dirigeants politiques notamment, qui leur rappellent de très mauvais souvenirs. Et c'est notamment pour ça qu'il faut parler de cette région, de ce qui s'y est passé, de ce qui se passe aujourd'hui aussi de positif. Mais avoir cette mémoire pour ne pas que ça recommence.
La mémoire, elle se construit aussi. Est-ce qu'on peut, nous, par exemple, je veux dire, nous, Français, c'est bizarre puisqu'on a parlé vraiment d'appartenance multiple, d'identité multiple, aussi ce qui constitue les Balkans aujourd'hui, la Bosnie aujourd'hui, et qui peut être quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour alimenter ces représentations et du coup aider la mémoire à se faire dans les Balkans et peut-être éviter que ça se reproduise là-bas, comme on l'a dit, et ailleurs, ici. Comment faire ça ? C'est quoi le devoir de mémoire aujourd'hui, avec les difficultés que ça implique ?
Je pense que la mémoire, elle se construit à différents niveaux dans la société et que c'est un travail quotidien de se rappeler des bons exemples et des plus mauvais de notre histoire commune, parce que c'est bien là la question, une histoire commune. Dont on doit apprendre. C'est pour ça que les mesures, par exemple, pour de dissoudre, d'arrêter les cours d'histoire en classe scientifique, comme si nos meilleurs élèves, puisque bien sûr les scientifiques, ce sont l'élite de la nation, n'avaient pas besoin de connaître l'histoire. C'est une question de citoyenneté aussi, c'est très important. Et on voit l'importance... Que nos dirigeants ont pu accorder et accordent aux questions de mémoire, c'est assez dramatique.
Vous vivez entre le sud de la France, la Belgique et la Bosnie, évidemment, pour votre terrain, pour votre doctorat. C'est important aussi d'avoir un pied à Bruxelles, en Belgique, pas loin des institutions européennes, pour travailler justement sur ces relations entre la Bosnie aujourd'hui et l'Union européenne. D'être à l'intérieur de tout ça ou pas loin pour
comprendre.
Oui,
pratiquement, c'est important parce que c'est aussi un des endroits où je mène mes recherches, où j'ai des entretiens, etc. Bruxelles, comme on l'entend, ce n'est pas que la voix d'Angela Merkel ou des institutions de la Commission et du Parlement européen. Mais c'est aussi une ville assez intéressante, très très diverse et où j'adore passer du temps parce que elle me correspond.
Comme à Sarajevo.
Exactement.
Et si je vous dis pour conclure tranquillement cette émission de l'instant 2, Sarah Sajn, vous êtes citoyenne du monde, vous me répondez quoi ?
Je suis une citoyenne européenne, française, aux origines multiples.
Slovène, croate un peu.
Slovène, croate.
Italienne. C'est ça la nouvelle Europe, alors ?
Le nouvel Europe,
c'est quoi alors, juste pour conclure ?
C'est celui qui assume son identité multiple, justement, et qui sait se mélanger avec les autres.
Ben voilà, ça c'est une belle conclusion. Merci Sarah Sage. Rappelez-nous votre sujet de recherche, de doctorat.
Gérer la diversité aux marges de l'Europe, une étude de l'intervention de l'Union Européenne en Bosnie-Herzégovine.
Eh bien, bon courage, bonne recherche.
Merci beaucoup.
Merci d'être venu ici dans l'instant 2. Merci à Lauriane Toulemont, toujours disponible pour ses chroniques, ses belles chroniques décalées. Merci à Emma Lebo et Camille Rosa de nous avoir prêté du son tout droit venu de Mostar et de ce beau pays qu'est la Bosnie-Herzégovine. On ne le dira jamais assez. Merci à JB, aux manettes, Balkanique, allez, de cette émission au sens le plus positif du terme. Je vous dis au mois prochain, prenez soin de vous et revenez vite dans l'instant 2. Je vous embrasse.
L'instant 2 sur Radio Grenouille.